Je vous remercie de votre présence qui constitue toujours un encouragement à continuer la transmission de la psychanalyse. Je suis par ailleurs didacticienne analytique et j'ai créé, il y a plusieurs années maintenant, dans le Vaucluse et sur Avignon en particulier, l'Institut français de psychanalyse appliquée, dans lequel je forme des psychanalystes. C'est au sein de cet établissement qu'est venue l'idée de créer une revue de psychanalyse tout public, donc Psychanalyse Magazine. Et l'équipe de Psychanalyse Magazine étant soucieuse d'un lectorat de qualité, nous avons pris la décision, il y a plusieurs mois maintenant, donc, de démarrer des cycles de conférences et d'ateliers-conférences. Donc il est bien évident que c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui sur un sujet sensible, on s'en est déjà rendu compte tout à l'heure, qui peut affecter facilement, à savoir l'abandon. Je vous signale donc les autres manifestations qui vont avoir lieu en 2002, organisées notamment par Psychanalyse Magazine, ou lorsque Psychanalyse Magazine sera présent. D'abord le 6 juin sur Paris, le thème abordé sera l'IVG. Ensuite le 14 novembre sur Marseille, l'abandon. L'adoption. 28 et 29 novembre... J'ai envie de commencer, oui. 28 et 29 novembre sur Paris. Alors, si Laurence me souffle, je ne suis pas sortie de l'auberge, là. 28 et 29 novembre, donc, sur Paris, pour la deuxième année consécutive, le Salon du Livre Psy, qui accueille des auteurs et des éditeurs de renom. L'entrée est gratuite et permet d'assister, donc, pendant ces deux jours, à beaucoup d'ateliers-conférences. Pour ma part, si cela vous intéresse, j'interviendrai les 1er et 2 juin dans le cadre de la formation Michel Freud à Fréjus, autour de cas cliniques. Donc il y aura aussi des cours, donc bien sûr des travaux pratiques, des ateliers, etc. Enfin, Psychanalyse Magazine sera présent dans le salon Rentrée Zen au mois d'octobre. Et pour ma part, j'interviendrai le dimanche 13 octobre sur un sujet aussi difficile, à savoir... les résistances au pardon. Alors, si vous avez besoin d'informations complémentaires, bon, il est bien évident que tout au long de la journée, nous sommes à votre disposition. Donc, lorsque l'on m'a proposé d'aborder le sujet, la psychanalyse à l'écoute de l'abandon, indépendamment de la difficulté dont tout le monde est conscient, bien sûr, je me suis interrogée quant à l'étymologie du terme « abandon ». Et j'ai été à la fois surprise que ce terme véhicule une notion de pouvoir et à la fois peu étonnée dans la mesure où si on réfléchit à la triangulation freudienne célèbre qui a été introduite d'ailleurs tout à l'heure par Xavier Santoni, à savoir angoisse du temps, c'est-à-dire angoisse de mort, névrose d'abandon, névrose d'échec, et bien on se rend compte effectivement qu'il y a là du rapport dominant-dominé. Il y a bien sûr donc des complexes de supériorité qui cachent des complexes d'infériorité. Il y a de la toute-puissance. Donc effectivement, pouvoir et abandon, à ce moment-là, deviennent un couple infernal. Alors je me suis dit que je devais bien avoir dans mes observations le souvenir effectivement d'un cas clinique qui pourrait illustrer cette espèce donc de rapport difficile, de rapport d'opposition. Et j'ai été renvoyée à Mélanie. Alors, Mélanie m'avait été envoyée par son institutrice alors qu'elle était au cours préparatoire et qu'elle y rencontrait des difficultés d'apprentissage de la lecture à type de dyslexie. Lorsqu'elle est venue en entretien préliminaire, elle était accompagnée de sa maman et elle tenait à sa main son livre de lecture. Alors, de façon très symbolique, j'ai ouvert le livre de lecture à la première page. Et mon attention a été attirée par deux dessins, puisque l'histoire était développée donc sur deux pages. Sur la page de gauche, il y avait une maman éléphant et son éléphanteau, et on pouvait imaginer que tous les deux gambadaient joyeusement. Le titre de l'histoire disait que l'éléphanteau se prénommait Babar. Et sur la page de droite, on voyait la maman éléphant couchée sur le sol, inerte, tué par deux vilains chasseurs sous le regard impuissant de Babar. Vous verrez combien le terme donc, d'impuissance est important et est à retenir d'ores et déjà donc, dans la construction de l'identité abandonnique. Alors, je me suis donc rapidement intéressée à cette lecture et effectivement, les illustrations reproduisaient assez fidèlement donc ce que l'auteur avait voulu raconter, à savoir donc une maman éléphant très gentille, le texte le soulignait, qui donc s'occupait très bien de son éléphanteau. Le texte avançait et on retrouvait effectivement les deux prédateurs, donc les vilains, qui tuait la maman. Et puis, partant de là, il y avait une troisième partie, c'est-à-dire que on imaginait Babar errant pendant des heures et des heures jusqu'au moment où il découvrait l'inconnu, c'est-à-dire la ville avec tout ce qu'elle pouvait représenter de phobogène pour lui, en ce qui concernait bien sûr le bruit, les gaz d'échappement, la circulation, etc., etc. Alors, il est bien évident que si l'enfant ne présente pas de fixation à Bandonique, et je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, une lecture de cet ordre-là en première intention ne va provoquer aucune problématique, aucune résistance, dit-on en analyse. Par contre, si l'enfant est abandonnique, il y aura problème. Alors, il n'est pas question de remettre en cause ni les illustrations dans ces cas-là, ni le contenu du texte, parce que, bon, il faut être réaliste, la vie est une jungle, mais ce qu'il est important aussi de retenir en analyse, c'est l'ordre des choses, parce que l'inconscient s'est organisé de façon très chronologique. C'est-à-dire que toute personnalité donc s'est élaborée et construite en gros de 0 à 5-6 ans maximum, mais l'ordre est parfait, donc de la période intra-utérine jusqu'à ce que Freud donc a nommé Œdipe. Donc, il faudrait impérativement que les professionnels, notamment, je pense à tout le monde enseignant, puissent avoir accès à cet ordre-là. C'est difficile et on en est conscient en tant que psychanalyste. Alors, dans le même ordre d'idée, j'ai été renvoyée à un conte célèbre, un conte de Perrault célèbre, Le Petit Poucet. Et j'ai relu, je me suis intéressée donc à nouveau au texte. Et en relisant cette histoire, je me suis dit que le petit Poucet avait eu des parents vraiment très particuliers, particulièrement abandonniques. Et si on resituait cette histoire dans le contexte sociologique actuel, eh bien voilà des gens qui auraient bien des comptes à rendre sans mauvais jeu de mots. Alors on voit ces parents qui, sous des prétextes plus ou moins fallacieux, certes, il y a des difficultés familiales qui sont mises en avant, une mère qui se laisse quand même séduire, entre guillemets, par le père, donc qui vont s'évertuer à perdre leurs enfants dans la forêt. Non, il est vrai que dans une fratrie importante, il y a toujours un MacGyver et on va voir donc le petit Poucet qui va s'évertuer à trouver des stratégies plus ou moins habiles pour essayer de récupérer donc le domicile familial. Puis jusqu'au moment où par le plus grand des hasards, entre guillemets, eh bien, il va pénétrer dans la maison de l'ogre, celui-là même qui mange les petits-enfants. Et c'est par une stratégie de transfert de lit, en fait, que le petit Poucet va sauver sa vie, va sauver bien sûr la vie de ses frères et sœurs, mais l'histoire nous racontera ensuite que l'ogre mangera, donc dévorera ses propres enfants. Donc là encore une fois, vous allez me dire, on a tous lu Babar, on a tous lu Le Petit Poucet, on n'est pas des serial killers en puissance, ou du moins arrivons-nous à maîtriser nos pulsions de mort, bien sûr. Mais encore une fois, tout va dépendre du moment où va intervenir la lecture de ce texte. Et d'ailleurs, il y avait eu il y a quelques années une polémique importante à la télévision, donc avec Dorothée qui s'était vue agressée de toutes parts, effectivement, par des sujets un petit peu difficiles qui étaient proposés, donc bien sûr en audiovisuel. Donc encore une fois, c'est cette chronologie qui va perturber l'inconscient abandonnique. Or, ni les parents, ni même les enseignants, bien sûr, en dehors de tout apprentissage professionnel, ne peuvent repérer véritablement ce qu'est un abandonnique. Alors, je vais essayer donc rapidement, on manque de temps, mais je vais essayer donc de vous expliquer, bien sûr, comment s'élabore une personnalité abandonnique, mais vous verrez que nous avons eu tous droit à ces stades-là. Alors, donc, je vais revenir sur le terme fixation. De façon schématique, je ne vais pas vous donner de définition, hein, là n'est pas mon propos, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a dans le public, bon, des professionnels de la santé, Il y a certainement des psychanalystes, il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a aussi des gens qui viennent en auditeur libre. Donc il nous est difficile de rentrer véritablement, non seulement dans une théorie très précise, et bien sûr encore plus dans une méthodologie. Mais je pense que vous êtes capable, bien sûr, de dégager, de nous proposer ce qui vous intéresse. Alors une fixation, donc de façon très basique, peut être soit un obstacle, soit une épreuve. Dans la mesure où le petit homme, toujours dans cette période de fragilisation, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, bien sûr, est en interaction avec ses parents. Si les parents, pendant cette période-là, rencontrent des difficultés, et si ces mêmes parents présentent une maturité pulsionnelle suffisante pour gérer les obstacles, ce peut être le divorce, le chômage, la perte d'un enfant, la naissance d'un enfant handicapé, etc., etc. Donc si les parents ont une maturité pulsionnelle suffisante, l'enfant va pouvoir, a priori, dans la vie, parce qu'il aura digéré, bien sûr, ses difficultés, va pouvoir s'en sortir de façon non abandonnée. On verra aussi que c'est plus complexe que ce que je dis là. Par contre, si les parents eux-mêmes ont une immaturité pulsionnelle, il est bien évident que l'enfant ne pourra pas digérer ses difficultés. Donc, on va appeler cela une fixation. C'est-à-dire que, mnésiquement parlant, l'inconscient va garder une trace indélébile à vie. Et l'inconscient va s'attacher à rechercher donc ses difficultés tout au long de l'existence. Parfois, c'est en même temps donc que les difficultés rencontrées dans la famille à l'instant T, et très souvent, les médecins le savent, on va avoir des enfants lorsque les parents se séparent, ou encore une fois s'il y a perte d'un être cher qui vont somatiser, parfois de façon très résistante. Et puis donc dans l'existence, eh bien, sous des formes plus ou moins masquées, ce que disait aussi tout à l'heure Xavier, bien sûr, ce que l'on appelle des formations de compromis, eh bien l'inconscient va essayer de revivre ce que ses parents ont vécu. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'un inconscient est très culpabilisé. C'est-à-dire qu'il se vit à la fois tout puissant, curieusement, vous verrez aussi tout à l'heure pourquoi. Donc effectivement, il y a du complexe du sauveur en lui, il y a de la toute-puissance, et à la fois donc cette culpabilité va l'amener donc à fantasmer qu'il a engendré donc tous les désagréments donc inhérents à la famille. Donc cette culpabilité aidant, il va effectivement avoir un besoin de punition. Et surtout, il a un schéma parental donc réducteur dans le cadre de la personnalité abandonnique, puisque, souvenons-nous, les parents n'ont pas été capacitaires, ce peut être fantasmé d'ailleurs aussi, mais les parents n'ont a priori pas été capacitaires à gérer donc la problématique qu'ils avaient eue, c'est-à-dire à la sublimer, à lui donner sens. Donc l'enfant ne va pas pouvoir dépasser de toute façon le propre point de fixation des parents. Donc il y a cette culpabilité qui est donc prise aussi, encore une fois, dans cette notion d'impuissance, puisqu'il y a, on va dire en analyse, une articulation manquante. On va retrouver donc ces notions de fixation donc dans ce que l'on appelle la psychogenèse. Pour chacun de nous, l'histoire est en apparence la même. Bien sûr, ça dépendra aussi de la famille, de la position individuelle de l'inconscient et de l'héritage transgénérationnel. Mais donc, très rapidement aussi, une vie intra-utérine. On va parler de période anobjectale, dans la mesure où l'enfant donc est incapacitaire d'imaginer à ce moment-là l'extérieur. Et c'est pour cela donc que l'on appelle aussi cette période narcissisme primitif. Donc encore une fois, vous voyez où s'origine donc la toute-puissance, qui lui jouera plus de tours d'ailleurs que lui apportera davantage. La naissance arrive et l'inconscient présente cette particularité de fantasmer qu'il perd une partie de lui-même. Et toute la vie, l'individu va chercher donc à reconstituer ce qu'il croyait être une intégrité, mais toujours dans le but, là par contre, de retrouver donc une certaine efficacité. Et pendant la période intra-utérine, il y a aussi bien sûr une particularité, puisque l'être humain quand même a une angoisse de mort terrifiante, c'est qu'il a un petit peu le beurre et l'argent du beurre, donc il fantasme à tort vivre. Sans prendre le risque de mourir, ce qui est faux, bien sûr, selon un principe de réalité. Donc, on voit que de cet état de contenu relativement paradisiaque, eh bien, l'inconscient donc va ressentir une espèce de brutalité donc face déjà à cette première prise de conscience de l'extériorité, même s'il va chercher à la nier. Alors, qu'a-t-il pour essayer donc de récupérer cette partie qu'il croit avoir perdue? Qu'a-t-il à sa disposition? Bien, il a deux pulsions spontanées, il a deux pulsions d'autoconservation. Il y a d'abord la pulsion dite orale, qui est une pulsion d'alimentation, et puis il y a une pulsion donc dite anale, qui est la défécation. Donc, on va dire que l'inconscient va s'étayer sur ces deux zones, qui sont d'ailleurs des zones érogènes, pour essayer de retrouver donc un état de plénitude, un état donc encore une fois relativement puissant. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples d'ailleurs en réalité. On va dire d'ailleurs que l'inconscient anaclitise sa vie, c'est-à-dire qu'effectivement il s'étaye, il s'agrippe libidinalement parlant. Alors l'enfant va d'abord découvrir sa mère, donc par le réflexe spontané donc de la succion, de la tétée, mais sa mère n'est pas à entendre comme un sujet. Il faut savoir aussi à ce stade-là, toujours en relation avec la période intra-utérine, que la mère, de façon sensitive, de façon olfactive, voire de façon intuitive, est envisagée comme une sphère. C'est-à-dire le sein devient une sphère, donc devient un objet. Vous voyez qu'on a une opposition par rapport à la période intra-utérine, bien sûr, où on connaissait une période anobjectale, et là on va dire que l'inconscient entre en relation objectale. Donc l'absorption constitue ce que l'on appelle un mécanisme d'introjection, c'est-à-dire prendre du dehors et mettre au dedans. Et effectivement, il n'y a qu'à regarder un nourrisson lorsqu'il a tété, il est repu. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, ce qui n'est pas fatalement le cas maintenant d'ailleurs, j'en suis désolée. Et effectivement, on voit quand il s'endort, il est béat. Pourquoi? Parce que donc il a fantasmé, récupéré quelque part une toute-puissance, c'est ce que Freud a appelé le principe de plaisir, et de narcissisme primitif, donc en position anobjectale, il passe en relation objectale au narcissisme primaire. Seulement, les choses vont se dégrader. C'est-à-dire que l'approche du deuxième fantasme va le gêner dans le sens où il va y avoir déjà un processus d'élimination, donc qui va se mettre en place. Donc, vous voyez, et Dieu soit loué d'ailleurs, l'inconscient donc va rencontrer l'extériorité un petit peu comme quelque chose d'agressif, puisqu'il va être un petit peu agressé déjà par ce qu'on appelle les coliques du nourrisson, tout aussi passives soient-elles d'ailleurs à ce stade-là. Et même si l'inconscient n'a pas encore acquis le contrôle des sphincters, eh bien, il sent qu'il se passe quelque chose. Donc, on dit que c'est un fantasme d'envahissement. Et il faut savoir aussi qu'il y a un autre désagrément, la faim, FAIM bien sûr, qui va le renvoyer à la notion de perte de vide. D'ailleurs, même si on se plaint toute la journée de trop de travail ou trop d'amis ou trop de famille, on voit en cure et dans la vie, bien sûr, qu'il est beaucoup plus renarcissisant d'avoir trop de travail ou trop d'amis que l'inverse. Donc, cet envahissement par le vide va véritablement perturber l'inconscient, mais il y a une espèce d'oscilloscope qui se produit, il va avoir à sa disposition, donc là maintenant, comme étayage, bien sûr, la défécation. Alors, on appelle ce stade projection contrôle pour deux raisons. Bien sûr, l'inconscient va projeter à l'extérieur ce qui le gêne, mais pour ce faire, il va falloir, du moins le croit-il, qu'il contrôle l'objet. Alors là, il y a deux cas de figure. Il faut savoir qu'à partir du fantasme précédent, l'inconscient déjà a clivé. Il a pu cliver d'ailleurs parce que le traumatisme de la naissance, donc l'angoisse de dissociation, a amené une position schizoïde, c'est-à-dire de rupture, de coupure. voire schizoparanoïde d'ailleurs. Mais malgré tout, si cette perturbation, donc très archaïque, le gêne, il sait faire, il sait couper. Donc, au deuxième fantasme, il a pris l'objet et il l'a clivé, il l'a coupé en deux. Ce bon objet est devenu le mauvais objet. Donc, il pense que les choses sont possibles maintenant pour lui à type de destruction, alors que l'inconscient a déjà ce que l'on appelle un surmoi, c'est-à-dire un censeur, un arbitre à l'intérieur de lui. Les choses sont possibles parce que, après tout, c'est un petit peu une réponse à l'agresseur. Il se dit, j'ai qu'à me débarrasser donc de cet objet qui me gênait. Alors comment je vais faire ? Ben, lorsque je vais me réveiller, par exemple, si j'ai faim, si je suis souillée, ben, je vais pousser des cris, alors qu'ils vont être plus ou moins importants au départ. Si la mère est près du berceau, il est bien évident que l'enfant va fantasmer qu'il réussit son contrôle. Donc il va retrouver un état de toute puissance. Mais si la mère n'est pas près du berceau, ce qui est tout à fait logique, bien sûr, dans la plupart des cas, soit qu'elle soit au téléphone, sous la douche, occupée à discuter avec la voisine, eh bien, il va se mettre à hurler de plus en plus. Donc, il va ainsi fantasmer toujours en identification, donc au processus projectif lié à la défécation, il va fantasmer détruire son objet. C'est malgré tout sans compter sur le surmoi. C'est-à-dire que le surmoi va lui rappeler que, d'accord, il détruit l'objet qui n'est pas à sa disposition, l'objet qui déjà l'abandonne, qui ne le reconnaît pas, mais ce bon objet est détruit de fait. Donc, on retrouve une notion de culpabilité qui s'instaure relativement rapidement. Alors, il faut savoir malgré tout que l'inconscient souffre parce qu'il n'a pas encore accepté donc que l'autre est indépendant de lui, est différent de lui. Et toute attente va être quelque chose d'extrêmement douloureux. Cependant, il ne faut pas que les parents culpabilisent, dans la mesure où il faut que l'inconscient arrive à accepter, bien sûr, le principe de la distance. Et là, on revient à l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'une mère qui saura poser de façon juste la distance, il ne s'agit pas, bien sûr, de récupérer la distance en tant que déni ou en tant qu'abandon, mais permettra à l'enfant de lui offrir le maximum de possibilités pour qu'il respecte l'ordre des choses. Et vous verrez qu'un ordre des choses bien posé amènera à l'acceptation de la loi, donc dans le cas bien sûr de l'identification au père, puisque comme la mère pose la distance, le père va pouvoir imposer la différence, c'est-à-dire la loi. Alors il faut savoir que le problème de la culpabilité, c'est qu'elle vide énergétiquement. Et d'ailleurs, quand on observe aussi un nourrisson, bien s'il a beaucoup pleuré, souvent il s'endort avec des sanglots, il est épuisé, qu'il ait obtenu ou non ce qu'il voulait, par caprice excessive, par demande excessive, d'ailleurs lié souvent aussi à une perte très résistante, donc encore une fois, qui nous renvoie au traumatisme de la naissance, bien sûr. Donc il arrive au stade qui nous intéresse, donc qui est dit le stade du moi perdu, épuisé, fatigué, vidé. Véritablement, il a l'impression qu'il devient complètement inexistant et qu'il est abandonné. Donc, pourquoi aussi ? Parce qu'à ce stade, l'inconscient est incapable de se faire une représentation abstraite des êtres et des choses. À savoir que lorsque la mère part de la pièce, l'enfant va fantasmer qu'elle part avec son moi. Donc, il suffit aussi là d'observer les nourrissons pour souvent constater à ce stade-là qu'ils sont tristes, ils sont apathiques, il faut les stimuler pour obtenir un sourire. On peut constater aussi donc des états dépressifs donc du nourrisson qui peuvent être même très résistants. Donc on voit que les choses se sont accumulées et si l'on remet dans le contexte bien sûr les fameuses difficultés familiales que j'ai introduites tout à l'heure, ou lié bien sûr à un héritage transgénérationnel, je vais y venir rapidement, puisque tout à l'heure, Xavier Santoni donc, vous les a développés longuement, eh bien, on peut assister donc à une fixation abandonnique qui va donner lieu bien sûr à des pathologies plus ou moins lourdes dans l'existence. Très rapidement, donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'on peut remarquer une personnalité abandonnique, notamment en suite de couche, c'est-à-dire dans les dépressions postpartum, Ensuite, l'interruption de grossesse, donc volontaire, involontaire ou médicale. Vous avez la kleptomanie aussi, dans les deuils aussi difficiles à réaliser. Et pour illustrer cela, j'ai choisi donc de prendre un exemple lié à une catastrophe naturelle qui a eu lieu donc dans mon département d'adoption, le Vaucluse, et en particulier à Vaison-la-Romaine. Je pense que tout le monde se souvient donc de la catastrophe de Vaison-la-Romaine qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, lorsque cette énorme vague de boue donc s'était abattue sur la ville, sur les habitants, sur les habitations. On va prendre pour exemple deux voisins qui auraient travaillé dans la même entreprise, qui auraient été mariés, qui auraient eu deux, trois, quatre enfants, peu importe chacun, même maison, même lotissement, même superficie, etc. La catastrophe intervient, on va assister à un des voisins qui, une fois le choc passé, va dire, bon, on va pas se laisser abattre, c'est vrai, c'est un drame, mais il va falloir reconstruire. Et on va voir l'inconscient de cet homme qui va aller de l'avant, et très curieusement, non pas pour privilégier des positions masochiques, mais on va voir donc cet homme qui va peut-être même en profiter pour opérer un changement, qui va attirer un emploi différent, où effectivement, il pourra peut-être enfin se réaliser. Donc il est bien évident, vous l'avez compris, là, on ne va pas parler de profil abandonnique. À l'inverse, par contre, on va avoir l'autre voisin qui va commencer à sombrer, donc à régresser, à être dépressif, et qui pourra même aller jusqu'à régresser à un stade très primaire, un stade hallucinatoire, et développer par exemple un problème d'alcoolomanie. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident que cet homme donc aura eu une fixation abandonnique, et la catastrophe de Vaison-la-Romaine, ramenant à la perte, aura réveillé un affect infranchissable qui aura amené une régression. Alors, on n'est jamais à l'abri de rien, et c'est pour ça que en analyse, on n'aime pas beaucoup les jugements, parce que malheureusement, ces choses-là peuvent intervenir à n'importe quel moment de notre existence, pour la bonne raison que les choses qui nous ont fait mal sont, dit-on, refoulées, donc bien sûr, au niveau inconscient. Alors, certes, nous sommes donc bien sûr plus ou moins abandonnés, cela a été dit aussi tout à l'heure, mais il y a quand même des lignées qui sont, je vais essayer de pas me casser la figure et pas m'abandonner moi-même, au niveau de mon identité du moins, il y a des lignées qui sont quand même plus marquées que d'autres. Et très souvent, ce qu'on remarque chez un sujet abandonnique, ce sont les non-dits. Ce sont effectivement, on n'appelait pas ça comme ça autrefois, c'était plus négatif, mais des mères célibataires, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été reconnus, bien sûr des décès prématurés de mères notamment. Alors ça m'a amené à m'interroger sur le fameux père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je l'ai transformé justement compte tenu d'un contexte actuellement qui peut paraître un petit peu inquiétant. Je fais allusion là rapidement au matronyme. Je l'ai transformé en père, pourquoi m'a-t-elle abandonné? D'autant que c'est une question très souvent qui m'a été posée, soit par des patients, soit par des élèves, à savoir, est-il plus douloureux pour un inconscient qu'une mère disparaisse prématurément ou qu'un père disparaisse prématurément, quelles qu'en soient les raisons. Là, ce peut être aussi une mère ou un père qui partent pour des raisons affectives ou qui se suicident. Eh bien, et là, je ne veux pas du tout, bien au contraire, banaliser la position du père, bien sûr, dans la triangulation, puisqu'encore une fois, le père est le représentant de la loi, donc il pose les limites, et vous savez qu'on entend par limite en analyse notamment le respect du tabou de l'inceste, mais pour un inconscient, donc qui reste très immature et qui est particulièrement immature, donc chez le tout petit homme, un père qui s'en va, non pas que l'inconscient l'accepte, parce que c'est inacceptable pour l'enfant, il a donc deux jambes, mais cela va être mieux toléré puisque le père est perçu comme venant du dedans mais allant au dehors. Par contre, une mère qui est perçue selon un processus très intériorisé, très intériorisant, très nidifiant, il est bien évident que si elle part prématurément, quelles qu'en soient les raisons, l'inconscient de l'enfant va de toute façon en être fragilisé à vie, avec des conséquences bien sûr plus ou moins graves, selon encore une fois l'héritage transgénérationnel, la façon dont cet héritage transgénérationnel aura véhiculé aussi l'abandonnisme et selon aussi ses propres limites, parce qu'il faut quand même rappeler que nous sommes uniques aussi. Alors, qu'a le père dans ces cas-là? Je reviens sur la notion de jugement. Qu'a-t-il à sa disposition vis-à-vis de l'enfant qui, bien sûr, va soit l'interroger, si le père est relativement ouvert quant au départ de la mère, quant au suicide de la mère, quant à la mort de la mère, soit effectivement au travers de comportements somatiques notamment ou à type de névrose d'échec, eh bien, il faut ne jamais critiquer la mère dans ces cas-là. Tout simplement. Déjà en première intention, parce que l'enfant, lui aussi, a une jambe maternelle, il s'est identifié à la mère, et que de toute façon, si on arrive à lui expliquer qu'elle aussi est issue, or les histoires se savent dans les familles, est issue donc d'une famille abandonnée, avec des exemples très précis, eh bien l'enfant va commencer à s'interroger, puisque c'est son histoire quelque part qui lui est racontée, et il ne jugera pas, il ne cherchera pas à détruire justement le. Je refais un clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure. Donc, il ne culpabilisera pas à outrance. Et avec un support thérapeutique ou pas, de toute façon, il commencera à apprendre à analyser la vie. Donc là, je suis allée très vite parce que, encore une fois, on a très peu de temps, mais il est bien évident qu'il faut rompre le silence. Alors, je vais vraiment utiliser le thème d'aujourd'hui pour dire que la profession de psychanalyste se vit très abandonnée. Et souvent a l'impression de subir, c'est peut-être du fantasme, pourquoi pas, une espèce de maltraitance institutionnelle, parce que notre métier est dénié, n'est pas reconnu, plus de 100 ans après, souvent ridiculisé, notamment médiatiquement parlant, pardon. Et plutôt que de là aussi démarrer un débat qui ne présente aucun intérêt, j'ai choisi justement de vous présenter la méthode selon deux exemples un petit peu différents. Un exemple d'abord personnel, où peut-être tout le monde pourra se retrouver. J'espère qu'il sera suffisamment pratique. Et puis un exemple professionnel. Alors, en ce qui concerne l'exemple personnel de la vie quotidienne, on pourrait imaginer des enfants en train de participer à un jeu de société. Et les parents sont présents, où les parents sont présents, soit que l'enfant d'ailleurs ait sollicité le parent pour entrer dans le jeu, ce qui peut toujours être le cas et qui est souvent le cas, soit effectivement que les parents soient là pour des raisons de sécurité et de surveillance. Alors très rapidement, dans un jeu, et malheureusement c'est peut-être le jeu de la vie aussi, on va assister à la présence de deux profils abandonniques. Ça a été dit tout à l'heure aussi. Il y a toujours un bourreau et une victime, un bourreau qui cache une victime, et une victime qui, de toute façon, cache un bourreau. Alors, le plus abandonnique des deux partenaires de jeu va s'agiter dans tous les sens, va essayer de monopoliser, bien sûr, l'espace, la parole, va se faire entendre. Alors, on va dire qu'il a un complexe de supériorité qui cache un complexe d'infériorité. Et puis, il va y avoir en face de lui un petit garçon qu'on pourrait prénommer Rémi, qui est plus en retrait. Le jeu commence, bien sûr, il y a la règle du jeu qui doit rester constante tout au long de la partie et qui doit être la même pour tous les partenaires, parce que sinon, très rapidement, on assisterait à des dérives et à ce qu'on pourrait appeler, et qui serait perçu ainsi par l'inconscient, comme de l'injustice. Alors, cela nous renvoie bien sûr à la règle fondamentale en analyse, à savoir deux choses très rapidement, bien sûr, la règle des actes manqués, c'est-à-dire tout rendez-vous pris en analyse est dû. Il s'agit là d'engagement, il s'agit de limites, il s'agit d'un contrat, il s'agit de loi. Et puis aussi, bien sûr, je suis en train de perdre ce que j'étais en train de raconter, oui, donc ce que Freud appelait donc l'influence. J'essaie de gagner du temps parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais très vite. L'influence correctrice du paiement, bien sûr. Hein. C'est ce qui va nous permettre déjà, en tant qu'analyste, donc d'obtenir des sécurités. Elles ne seront pas suffisantes, bien sûr. Après, c'est la méthode qui va faire le reste. Donc on va imaginer que le petit agité de service perde. Alors, il va commencer à hurler et puis il va essayer de faire changer la règle du jeu et puis de la tourner à son avantage. Alors, il est bien évident que le parent va s'y opposer formellement et va dire non. Alors, il va s'énerver de plus en plus. Il va chercher à détruire le rival, a fortiori si Rémi gagne. Alors, on peut l'entendre dire, ouais, tu vas voir toi Rémi, ta voiture jaune, là je vais te l'exploser. Alors, le parent doit intervenir à ce moment-là, dès qu'il le peut, en disant à l'enfant, tu vois, d'accord, Rémi, là, il est en train de gagner, mais tant que la partie n'est pas terminée, on ne sait pas qui sera le vainqueur, parce qu'il peut tomber sur cette case redoutable qui va lui faire passer 2 tours. Donc, à ce moment-là, Rémi ne va plus être perçu comme un rival. Donc, si on se réinterroge sur le fantasme de projection contrôle, l'inconscient donc ne va plus chercher à détruire le partenaire, puisqu'il n'est donc plus rival, il ne va donc plus culpabiliser, il va récupérer de l'énergie, de la libido. On va dire que donc la mère aura permis un processus d'humanisation, vous avez vu qu'on avait vu la loi, l'humanisation, et l'enfant va pouvoir de fait se socialiser, c'est-à-dire que toute cette énergie récupérée, il va la mettre à son service et il va avoir peut-être des tactiques de jeu meilleures. Et même s'il venait à perdre, eh bien, c'est d'ailleurs souvent ce que l'on voit lorsqu'on entend notamment des chasseurs ou des pêcheurs discuter, eh bien, si l'axe, donc, loi, humanisation, socialisation a été respecté, c'est pratique. Il est bien évident qu'il va y avoir une renarcissisation donc de l'inconscient de l'enfant. Et lorsqu'il racontera la partie de jeu, encore une fois, même s'il perd, eh bien, on verra, il sera tout fier malgré tout, même si ces stratégies n'ont pas abouti, de les raconter. On va voir aussi donc comment peut opérer donc la triangulation loi, humanisation, socialisation en séance de régulation. Mais vous allez me dire, mais on fait tous ça, la loi, bon après tout on est des gens honnêtes, on sait la poser, et puis humaniser on sait, socialiser on sait. La plupart du temps, bien sûr, la triangulation, on la maîtrise parce que nous avons eu des parents dits surmoïco-castrateurs qui nous ont rappelé à l'ordre. Si les parents ont été déficients à ce niveau-là, il y a eu un enseignant ou il y a eu un curé ou des fois c'est un cousin, ou etc. Mais la problématique que nous avons, et je l'illustrerai rapidement, c'est que la loi, nous la posons, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, nous inversons l'ordre, c'est-à-dire que nous socialisons avant d'humaniser. Alors, je vais prendre un exemple un peu caricatural. On va imaginer un adolescent, donc il a tout à fait compris qu'il avait plutôt intérêt à faire des études correctes compte tenu du contexte actuel, etc. Même qu'il ait tout à fait intérêt à passer son bac et à l'avoir. Et donc, les choix vont commencer à se poser. Les parents vont avoir des tas de discussions avec l'ado. Eh bien, le désir de l'enfant ne va pas être pris en compte. C'est-à-dire que l'ado va leur dire au départ, oui, c'est vrai, il faut que j'ai mon bac, je vais travailler, etc. Mais très vite, les parents vont proposer des axes de socialisation à l'enfant. Ah, tu sais, le métier de vétérinaire, c'est génial, hein, ou hein, le métier de médecin ou d'avocat, c'est extraordinaire. Et là, bien sûr, vous l'avez compris, il va y avoir évidemment un complexe d'infériorité qui va s'agiter dans tous les sens. Pourquoi? Parce que le désir de l'enfant n'est absolument pas pris en compte. Ou alors il va arriver trop a posteriori. Et on voit encore là, effectivement, soit un ado qui fonctionnera par peur de perdre l'amour de ses parents, par abandonnisme, donc qui fonctionnera selon un faux self, cas auquel effectivement il sera peut-être avocat pour faire comme papa ou pour séduire maman, donc là par Œdipe interposé. Mais on pourra très bien avoir un avocat de ce type-là qui soit un mauvais avocat, ce qui est d'ailleurs rarement le cas, parce qu'il faut continuer à séduire les parents, soit qui aura un accident de voiture, me rappelle quelque chose, tiens, et qui se tuera par exemple en allant travailler. Effectivement, soit on pourra assister lorsqu'il s'agit déjà d'une conduite vrai self d'un ado, donc qui fuguera, qui partira en claquant la porte, c'est d'ailleurs pas le pire, mais de toute façon, vous voyez qu'il y aura une rupture qui interviendra de toute façon. Donc dès l'instant où on ne respecte pas cette triangulation-là, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans cet ordre-là, eh bien, on ne respecte pas le désir de l'inconscient, c'est-à-dire on ne respecte pas l'inné. Or, il faut savoir que l'inné est aussi le réservoir des pulsions de vie, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va dire que les parents vont chercher à symboliser, c'est-à-dire à faire rentrer l'enfant dans le moule, mais c'est sans compter sur le fait que nous sommes tous différents. Donc, ce qu'on dit toujours en analyse, c'est qu'il vaut mieux un jardinier heureux, bien sûr, hein, quelqu'un qui fasse des hautes études commerciales et qui soit malheureux, qui galère toute sa vie. Mais ça, je pense que vous le savez. Alors, en régulation, bon, on va avoir exactement la même problématique. Alors, on va imaginer que nous soyons appelés en entreprise, donc pour une gestion de conflit, parce qu'il faut savoir qu'on est appelé, si on est régulateur, que pour ça, jamais pour le reste. Et en général, quand on est appelé, eh bien, il y a bien sûr des nœuds borroméens, comme le disait Lacan, qui sont devenus très résistants. Alors, pour trouver les bonnes pistes, c'est pas évident, et vous allez voir pourquoi. Alors, il est très facile à un régulateur, je sais qu'il y en a là aujourd'hui, il est très facile à un régulateur donc de poser la loi. Je vais donner un exemple, il peut y en avoir des tas, c'est-à-dire qu'il lui suffit tout simplement de rappeler donc les termes d'un contrat initial. Et puis là, c'est pareil, on va toujours voir un dominant et un dominé. Donc, ne jamais oublier que de toute façon, dans le rapport dominant-dominé, il n'y a jamais que du complexe à la base, hein, et du complexe d'infériorité, même si la forme semble différente. Et donc, on va voir le dominé, donc, le dominant qui va s'évertuer à agresser, bien sûr, Dupont, qui sera le dominé là, pour les besoins de la cause. Alors, dès que le régulateur va pouvoir entrer là-dedans, c'est parfois fort difficile. Et là, je vous donne évidemment uniquement le principe et non pas la méthode complètement développée. Eh bien, il va falloir que le régulateur rappelle donc à l'agité de service que Dupont lui-même est soumis à une hiérarchie extérieure. Vous voyez que la loi étant extérieure, là, elle est rappelée. C'est-à-dire qu'on va assister à ce qu'on appelle à l'introduction de l'alter ego, semblable mais différent. Ce qu'il ne faut jamais faire dans ces cas-là, alors ça, bien sûr, ce n'est pas les régulateurs qui le font. Lorsqu'on arrive en entreprise, les dégâts sont déjà faits. C'est-à-dire que quelqu'un dans l'entreprise qui aura besoin de réparer, de sauver, ou qui aura une angoisse de castration, va venir trouver l'agresseur en lui disant: oui, mais vous comprenez, Dupont, il faut le comprendre. Hein, sa femme est partie avec le voisin, ou son enfant est malade. Donc ça, jamais j'en vois sourire, c'est une catastrophe. On n'arrive plus après, oui, on fait un temps fou, donc pour dénouer le nœud. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question, bien sûr, de mélanger le social et l'affectif pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que les transferts flambent, les confusions, bien sûr, sont réactivées. Mais ça, bon, je pense que tout le monde le sait aussi depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où Dupont, donc, va être envisagé comme un alter ego, donc soumis lui aussi à une règle qui peut avoir des avantages, mais qui, bien sûr, dans son corollaire inversé, aura des inconvénients, eh bien, on va voir donc l'agresseur qui va se recentrer sur lui, et c'est toujours le même principe, qui va récupérer de l'énergie, donc qui va, de fait, après avoir intégré ce principe d'humanisation, qui va pouvoir donc se socialiser, toute l'énergie récupérée va être mise au service, bien sûr, de l'entreprise et au travers, bien sûr, d'axes de renarcissisation. Alors, bien sûr, encore une fois, il faut souvent quelques séances de régulation. Encore que je me souviens d'une séance de régulation où donc la triangulation avait été intégrée et acceptée tout de suite par un agitateur de service qui pourtant n'était pas des moindres. Et c'est vrai que les choses ont repris leur cours de façon correcte et de façon de moins en moins, bien sûr, perturbante pour le reste des membres de l'entreprise. Seulement, avant d'en terminer, il faut savoir que très souvent, l'origine du conflit n'est pas où on la cherche. Vous savez qu'en analyse, on parle beaucoup de neutralité, donc on parle de juste. Et il faut savoir que tout conflit s'origine au travers donc de ce qu'on appelle hystérie de séduction. C'est-à-dire qu'il va y avoir eu quelqu'un, donc parmi le personnel, qui aura eu un complexe d'infériorité résistant et qui aura, c'est toujours le même processus, commencé à inviter chez elle ou chez lui les membres d'une équipe. Et c'est toujours la même chose, en principe, des gens qui sont beaucoup plus diplômés qu'elle ou lui. C'est toujours, encore une fois, ce rapport dominant-dominé, hein, avec l'abandonnisme, bien sûr, qui est là. Donc, il faut se faire aimer à tout prix, il faut être reconnu. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas du tout les compétences professionnelles qui sont mises en avant. Alors, que va-t-il se passer? On va aller chez la personne qui invite, elle peut avoir une piscine, je peux ne pas en avoir, ou bien sûr l'inverse. Donc on voit bien sûr les complexes d'infériorité et de supériorité qui vont effectivement petit à petit être transférés bien sûr sur l'ensemble de l'équipe. Et alors très curieusement, les gens qui sont en hystérie de séduction sont très doués, puisqu'on va les oublier, il ne faut pas, là pour le coup, perdre de vue qu'ils sont abandonniques. Donc on ne va pas du tout chercher l'origine où elle se trouve encore une fois. Alors, je n'ai pas du tout l'intention là, de faire la morale, mais bien évident qu'il existe suffisamment de lieux neutres, et je pense que tout le monde peut penser au restaurant pour se réunir chez soi, pour parler, pardon, pour se réunir, non pas chez soi justement, mais à l'extérieur. Donc encore une fois, là, la loi sera omniprésente, donc bien sûr, pour discuter de l'entreprise ou d'autres choses. Et là encore, dernière erreur à ne pas commettre, bien sûr, ne pas inviter l'équipe à se réunir dans le restaurant qui appartient à la belle-mère ou au beau-frère, ce serait encore plus pernicieux et il y aurait bien sûr encore plus d'inconvénients. Donc vous voyez que dans la vie bien sûr personnelle ou dans la vie professionnelle, l'axe à toujours respecter, c'est loi, humanisation, socialisation, et c'est ce qu'on appelle en analyse le respect de la différence. Alors je vais accueillir vos questions, c'est un tour d'horizon qui est très rapide, je vous remercie déjà de m'avoir écouté longuement. Voilà, donc si vous désirez poser des questions, je suis à votre disposition. Qui est tombé. Il n'y a pas une première question?
Je ne comprends pas bien dans votre dernier exemple, oui. La situation abandonnique. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions?
Dans l'exemple de la régulation,
oui.
Mais tout simplement, dès l'instant, donc c'est ce que l'on a dit plusieurs fois, mais c'est vrai que moi je l'ai dit très rapidement. C'est-à-dire que dès l'instant que vous avez abandon, vous avez chez le sujet angoisse du temps, donc angoisse de mort, toujours, mais prépondérante, névrose d'échec. Donc vous allez avoir des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité sur des positions dominant-dominées. Toujours, hein, c'est vraiment une triangulation, lorsqu'on la garde à l'esprit, on peut la repérer très vite dans la vie. Hein. Donc, angoisse du temps, névrose d'abandon, névrose d'échec. Donc fatalement, ce qui en découle, ce sont tous les complexes. Hein. Rapidement, on pourrait peut-être dire qu'un complexe, c'est une lutte inconsciente entre deux instances nommées ça. Principe de plaisir par Freud, qui d'ailleurs correspond à l'inné, au commencement était le ça, a-t-il dit, et le surmoi qui est donc un censeur, un juge et un arbitre redoutable. Tout ça dans la vie inconsciente, c'est-à-dire même lorsque nous avons la grippe, nous savons que le ça et le surmoi ne sont pas d'accord, et l'héritier de cette lutte est le moi.
Pardon, ça va être une question peut-être un peu bête. Je ne suis pas psychanalyste, je suis que médecin. Et je me pose la question. Je suis désolée. On en fait beaucoup, mais on n'est pas compétent.
Vous nous aviez habitués à pas mal tout à l'heure, mais pas au pire. Hein. Alors je me cramponne.
Non, dans votre discours, si j'ai bien compris, une personnalité abandonnique n'a pas forcément vécu un abandon physique.
Vous avez raison de dire ça. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas été dit. Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il y aura quand même eu, bon là ça a été plus que dit, dans un héritage transgénérationnel proche ou moins proche, il y aura eu de toute façon un abandon physique. De toute façon. Hein.
Donc, qu'est-ce que vous appelez abandon physique? Parce que bon, moi j'ai un exemple en tête qui pourrait être un abandon psychologique.
Je ne sais pas si ça sera développé par Laurence ou Fabienne, je le dis rapidement, j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va entendre par abandon physique les travaux de Spitz, je ne sais pas si vous les connaissez, sur l'hospitalisme, c'est-à-dire Spitz, vous deviez en parler, il faut que je me taise.
Non,
Bah écoutez, Laurence vous répondra. Ah ben non. Non, oui, elle s'est identifiée à vous, elle me dit, vous en parlerez mieux. Non, Laurence, vous le... Non, donc, si vous restez, sauf si vous ne restez pas, j'y réponds, mais d'accord, donc vous restez, d'accord. Et de Spitz, on arrive à Dolto. Je ne sais pas si vous voulez, si vous parlez de Dolto, puisque Dolto, en fait, alors je le dis, c'est étayé sur les travaux de Spitz, mais donc vous saurez qui était Spitz tout à l'heure, dans la mesure où, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que je n'interviens pas trop sur la partie de Laurence. L'enfant, donc, lorsqu'il découvre le stade abandonné, qui, effectivement, est incapable de se faire une représentation abstraite des êtres et des choses. Et donc, Dolto, donc, s'étayant sur les travaux de Spitz... Après, je me tais. Donc, à expliquer combien il était important de raconter à l'enfant, aussi petit soit-il, les raisons de l'absence de la mère ou et du père, à savoir, même si elle va travailler ou si elle va se promener, elle doit toujours dire, bien sûr, qu'elle part, mais qu'elle revient. Bien sûr qu'elle l'aime. Mais ça, c'est des phrases toutes faites que j'aime pas beaucoup parce que ça dépend de quelle façon aussi on s'y positionnait en disant que l'on partait travailler. On peut culpabiliser l'enfant. Hein, mais ça, c'est un autre débat. Peut-être que vous allez en parler. Donc oui, pour en revenir à cela, c'est vraiment une séparation physique hein, à ce moment-là, si il y a absence totale de la mère dans la vie de l'enfant.
Vous parlez de l'angoisse de mort, névrose d'échec, complexe d'infériorité et de supériorité. Est-ce que ça veut dire à l'inverse que vous pensez que tout complexe d'infériorité et de supériorité alors provient d'un sentiment d'abandon, auquel cas effectivement on serait aussi beaucoup dans l'abandon symbolique. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que tout enfant aurait à un moment donné vécu ce stade-là. Enfin...
Oui, vous avez raison de dire ça parce que en fait l'enfant, mais ça a été dit aussi, je crois un petit peu tout à l'heure, mais on a un complexe d'infériorité, bien sûr, parce que on fantasme que nous n'avons pas été suffisamment aimables pour être reconnus. Et donc, on revient à la culpabilité. Si maman s'est suicidée quand j'avais 2 ans, eh bien, c'est parce que je n'ai pas su l'aimer.
Mais dans des cas moins violents,
la
naissance du complexe d'infériorité et de supériorité, de toute façon, pour vous, a comme origine l'idée d'abandon...
Oui.
Du nourrisson dans le stade dont vous avez parlé tout à l'heure sur la fixation.
Oui, avec une difficulté quand même au narcissisme primaire, de toute façon, sur des formes pathologiques très graves. Il faut qu'il y ait déjà une perturbation au départ, donc ce qu'on appelle les stades de la libido, donc des fixations négatives, donc pathologiques, en narcissisme primaire, à type justement déjà de régression en stade hallucinatoire. Sur une période qui se situe entre le moment de la naissance, bien sûr, et le narcissisme primaire. On a beaucoup de mal à situer ce stade-là. Moi, je le fais travailler en cure et en cours, entre donc l'angoisse de dissociation, encore une fois, et le narcissisme primaire. Vous n'avez plus de questions à poser ? Voilà, donc je vous remercie de toute façon et de votre présence encore une fois, des questions qui ont été posées et du soutien que vous apportez à Psychanalyse Magazine. Merci.